Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité c'est André Manoukian, on parle de son nouvel album Anouche, mais quand on connaît Manoukian, on sait que ça va déborder, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe.
Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler d'une nouvelle épidémie, m'avez-vous dit?
Oui. Et une grave, encore plus grave que celle de ces animateurs radio qui ne connaissent pas la date d'anniversaire de leurs collaborateurs. Hein ? Non, il n'y a aucune rancœur dans ce que je viens de dire.
Non.
Oh, c'est terrible.
Mais je penserai à vous le 6 mars.
Ouais. Oh ! Comment vous avez fait ? Je vous déteste et je vous aime tant en même temps, Philippe. Vous êtes si diabolique. Mais revenons au sujet du jour. J'étais chez moi un peu flagada et en regardant Estelle Midi, j'ai appris qu'une étrange épidémie toucherait la moitié des Français.
Une épidémie, tu en as parlé, de flemme. Près d'un Français sur deux, 45%, se dit fréquemment atteint d'une envie de rien.
Rien.
Je sais pas comment ça se passe. Quand t'es atteint d'une envie de rien, est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à regarder des vidéos d'influenceurs ? Est-ce que c'est là que tu arrêtes de faire du shopping pour porter tes vieux t-shirts ou une veste ? Donc c'est une étude très sérieuse de l'IFOP et de l'Institut Jean Jaurès dont nous parlait Estelle Denis.
Le constat est accablant. Depuis le Covid, on a la flemme. Moins de sport, moins de loisirs, moins de boulot, plus de glandouilles sur le canapé, de plats préparés.
Si c'est vraiment ça les symptômes post-Covid, je crois que je fais un Covid long. Hein. Et peut-être même qu'on a accusé les pangolins à tort parce que visiblement je portais la maladie depuis mon adolescence. C'est sans doute moi le patient zéro. Donc je voulais en savoir plus. Elle porte sur quoi exactement cette flemme ?
Pour tout, travailler, faire le ménage, sortir, faire du sport, c'est surtout vrai pour les habitants de la région parisienne. 41% se disent moins motivés et pour les sympathisants de la France insoumise. Bah oui, 44% sont moins motivés.
Mais ça, c'est intéressant comme étude. Si t'habites dans la région parisienne et que t'as voté Mélenchon, statistiquement, t'as des grandes chances d'être un gros flemmard. C'est pas stigmatisant du tout. Est-ce que vous vous sentez flemmard autour de la table ?
Non,
moi non.
Bah ouais, hein. Comme par hasard.
44% sont moins motivés contre seulement 23% des électeurs d'Emmanuel Macron.
Ah oui, je sais pour qui vous avez voté. Non mais cette étude est folle. Dis-moi si tu glandes, je te dirai pour qui tu votes. Je pense que les électeurs de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sont de belles grosses feignasses, parce qu'ils ne se sont même pas déplacés dans les bureaux de vote. Alors évidemment, dans l'émission, ils ont essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça.
Quand on voit le nombre de pubs qui jouent sur ce, oui, sur ce ressort, on va vous apporter les trucs
c'est ça.
À domicile, vous n'aurez rien à faire, posez votre cul, on s'occupe de tout.
Il y a une ambiance. Non, mais t'es pas obligé d'écouter les pubs.
Elle s'est un peu emballée, Estelle, là. Hein. Parce que juste avant, il y avait une pub pour Uber Eats sur sa chaîne. Il doit être content, l'annonceur. Surtout que c'est bien de donner des conseils. Mais en début d'émission, on proposait aux téléspectateurs de jouer au jeu du coffre RMC.
Vous ouvrez le coffre avec à l'intérieur une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar.
Ah, bah c'est sûr que si tu gagnes ça, hein, tu vas beaucoup sortir de chez toi. Et le moment poignant, c'est quand Estelle Denis avouait qu'à son grand regret, elle se rendait compte qu'elle commandait de plus en plus de plats préparés. Heureusement, Daniel Riolo est venu la réconforter.
Et je l'avais en 2020 cette solution et je le faisais pas.
Non, mais avait moins, ça se met en route doucement. Peut-être que t'es pas toute jeune et que t'es en train de Mais non, mais t'as pas 20 ans.
Après l'émission, Estelle s'est commandé une pizza 12 fromages pour se remonter le moral. Non, mais ça m'a vraiment inquiété cette épidémie, car Rémi Barré lisait des messages de téléspectateurs. La situation est très grave, Philippe.
En tant que régisseur d'une piscine, je vois également beaucoup, beaucoup moins d'enfants nager depuis la fin de la pandémie.
Les enfants ne nagent plus. Donc si vous voyez des corps flotter dans le grand bain, c'est juste une épidémie de flemme. Laissez vos enfants dans le pédiluve. L'eau est un peu dégueulasse, mais au moins ils auront pied. Alors heureusement, à un moment, un auditeur a appelé pour apporter un peu d'espoir, faire une proposition pour redonner l'envie aux gens. Et écoutez bien autour de cette table, car j'aimerais avoir votre avis sur cette proposition juste après.
Et autour de vous, Mohamed, est-ce que les gens ont la même motivation ou est-ce qu'au contraire, vous voyez des gens qui ont la flemme et qui se replient sur eux-mêmes ?
Ah bah Estelle, je vais vous dire une chose, là j'ai inventé un nouveau concept qui s'appelle la pipe.
Alors, qui veut prendre la parole ? Est-ce que vous pensez que la pipe peut redonner le moral aux Français ?
Ouais,
non, personne ?
Non, je laisse continuer.
Ouais. Non, mais qui maîtrise le mieux le concept de la pipe ici ? Non, personne ? Ok. On est d'accord. Voilà. Donc, cette étude était juste. Vous avez la flemme de participer à cette rubrique. Alors, je vous explique.
Dans le boulot, en général, je rencontre plein de gens qui sont dans ce concept-là. Pas d'initiative, donc pays, pas d'initiative, pas d'emmerde.
Pas d'initiative, pas d'emmerde, PIPE. Exactement comme vous quand je vous ai demandé de participer. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la France.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain, Olivier Benkemoun. Remettez-vous le programme de votre indispensable ce matin.
T'as de beaux yeux, mon Philippe, tu sais. T'as de beaux yeux. On va parler de Jean Gabin.
Quelle imitation, quel talent.
On va parler de Jean Gabin qui a disparu le 15 novembre 1976. Et du coup, j'avais envie de revoir plein de Gabins. Et j'ai eu un choix difficile à faire que je partagerai avec vous.
Je pose la même question à Laure d'Autriche, votre indispensable ce matin.
Un opéra de Jacques Offenbach, La Péricole, qui se joue en ce moment à Paris aux Têtes des Champs-Élysées. Offenbach, ou comment un homme d'une famille très austère est devenu le roi de la musique légère.
Dans un instant, André Manoukian. Il aime la musique légère, il aime aussi la musique profonde. On parle de son dernier album, ça s'appelle Anouche. Et tout de suite, il aime aussi les coups de poing à la guitare et sur son frérot Noël Gallagher sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour André Manoukian.
Bonjour Philippe.
Vous êtes pianiste, pianiste de jazz, mais pas seulement. Vous avez composé les grands succès de Liane Folie. Vous êtes également animateur radio, juré emblématique, inoubliable de La Nouvelle Star sur M6, présentateur d'émissions télé, chroniqueur multicarte. Et j'en oublie volontairement parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à 11h. Je plaisante. La difficulté avec vous, c'est plutôt de vous arrêter. Votre actu, c'est ce nouvel album. Il s'appelle Anouche. C'est un album, non pas de variété, mais entre le jazz et peut-être les musiques orientales. Vous allez nous dire, qui était Anouche ?
Anouche était ma grand-mère, elle m'a élevé. Elle est partie quand j'avais 6 ans. Elle avait toujours un air triste, mais en même temps, elle était très aimante. Et il n'y a pas très longtemps, mon père m'a tendu pudiquement une feuille de papier sur laquelle sa sœur avait écrit Le calvaire d'Anouche.
Le calvaire d'Anouche. Avant qu'on en parle, on va entendre un extrait de cet album. Ça s'appelle The Walk. Je traduis, ça veut dire la marche. C'est le titre qui termine l'album. Et dans ce titre, vous sabotez la célèbre marche turque. On a bien compris que les Turcs...
Que les Turcs
avaient à voir dans l'histoire de votre grand-mère.
Exactement, parce que la marche qu'a fait Anouche, elle est partie. Alors, tous les Arméniens de la diaspora, maintenant qui sont dispersés dans le monde entier, venaient tous de la Turquie, de l'Empire Ottoman, mais il y avait des villes turques où il y avait jusqu'à 100 000 Arméniens. Ils avaient leurs églises, leurs cathédrales, leurs universités.
Il y a une carte dans l'album quand on l'achète en CD. C'est toujours agréable d'avoir les albums en CD, en dur, en réel plutôt qu'en virtuel, parce que là, il y a une carte et on voit, on imagine que c'est ces 1000 km de Hamsaya à...
De Hamasya à Derzor, le désert syrien où c'était la destination finale, où l'extermination, elle était, on va dire, artisanale. C'était on les mettait en plein désert et puis sans rien à manger, sans rien à boire, et on mettait les survivants. Et Anouche a marché 1000 km à pied. Et je dis, c'est pour ça qu'on aime la randonnée dans la famille, finalement. Mais j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Encore une fois, mon père nous a toujours épargné de ce récit-là. Et finalement, d'une certaine manière, je le remercie.
Elle s'en est sortie.
Elle s'en est sortie. Elle a recommencé sa vie avec le même qui s'appelait Antranik, André en arménien, duquel j'ai hérité mon prénom, qui lui, pendant ce temps, était déporté en Sibérie, s'est évadé, a été repris et reparti à la Révolution russe. Il est arrivé chez lui, mais où sont ma famille ? Il ne savait pas. Prisonnier par les Turcs, il s'évade, il se bat avec les Russes contre les Turcs. Corto Maltese, pour moi, c'était lui le héros. C'est pour ça que quand j'ai découvert l'histoire d'Anouche, j'ai dit « mais elle aussi ?»
Quand vous racontez ça, si les gens prennent l'émission en cours de route, ils disent « Tiens, André Manoukian fait un film. » Non mais c'est un album. Comment on en fait un album? Comment on en fait de la musique? Je ne sais pas par quoi commencer. Je me suis dit, comme j'hésitais, je vais faire comme Manoukian. En 1, je vais mettre la 1. On va entendre le début, on écoute un petit peu des notes, ça s'appelle Soufi Danse, et on en parle ensuite.
Thank you.
Là, on entend les demi-tons orientaux, mais ça démarre aussi comme du jazz, soft, c'est un mélange de tout. Comment vous avez travaillé sur cet album ?
Alors, ça fait un moment déjà que je suis sur la route de l'Orient. Il y a une douzaine d'années, une réalisatrice m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur la diaspora arménienne. Du coup, honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose. Moi, je suis né ici, mes parents sont nés ici, mais c'est mes grands-parents qui sont arrivés en 1922. Et on n'a pas du tout été élevés dans l'esprit communautaire. On détestait même plutôt ça. Et mon père aussi, pour ses raisons à lui. Et du coup, quand j'ai découvert la musique de mes ancêtres, j'ai dit, mais c'est génial. Des nouveaux sons, des nouveaux rythmes, des nouvelles gammes. J'ai dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Et du coup, ça, mélangé au jazz, c'est génial. Parce que dans le jazz, il y a quelque chose qu'on appelle la musique modale, c'est-à-dire vous êtes sur une gamme et pendant des heures et des heures vous tournez autour. Et ça, c'est très oriental en réalité. Le gars qui a amené ça dans le jazz, il s'appelait Miles Davis dans les années 50, mais les orientaux, ils n'ont pas arrêté eux depuis des centaines et des centaines d'années. Donc tout d'un coup, la collusion des deux a été formidable à un moment où j'avais envie de renouer moi seul avec le piano parce que j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses et du coup, ça a été génial comme un cadeau. Et celui-ci, quand j'ai composé le premier morceau que vous avez passé, The Walk, je pensais que c'était comme une marche et tout d'un coup, je venais de découvrir l'histoire d'Anouche qui a marché 1000 km pour arriver dans le désert et qui ne doit finalement sa survie qu'à sa tchatch, c'est-à-dire qu'elle a pris la tête du commandant turc du convoi, il faisait sa prière 5 fois par jour, c'était rare à l'époque. C'était pas vraiment très religieux partout. Et du coup, elle lui dit, au nom de ta religion, comment peux-tu laisser passer ces horreurs? Parce que dès qu'ils arrivaient dans un village, tout le monde se ruait sur eux pour leur piquer tout ce qu'ils avaient. Elle n'a même pas pu enterrer ni son père ni sa mère. Elle a perdu un petit garçon, une petite fille, mais elle avait 7 sœurs. Et c'est pour ça qu'elle a survécu, parce qu'elle leur mettait de la boue sur les joues pour ne pas qu'elles soient trop jolies et qu'elles se fassent enlever.
Et vous avez hérité de ça de votre grand-mère, la tchatch. Il y a un morceau très intéressant, que je trouvais très intéressant, le rondo arménien. C'est quoi un rondo et c'est quoi un rondo arménien d'un mot? Parce qu'il faudrait qu'on l'entende.
Le rondo, c'est comme une petite danse, c'est une forme, je dirais, c'est le refrain dans les sonates classiques. Mm-hmm. Il y a la forme rondo, la forme scherzo, ouais. Et arménien parce que du coup, c'est une petite danse arménienne à 7 temps.
Alors, ça c'est assez extraordinaire. Je vais faire une chose que j'ai encore jamais faite. Je vais laisser mon micro ouvert et je vais compter avec vous qui écoutez ce titre. Et vous allez voir, la musique a 7 ans. Au départ, on ne s'en rend pas compte. Et après, ça fait quelque chose de très bizarre. Et ensuite, ça fait quelque chose de presque jouissif.
Bravo, Philippe.
Et vous pouvez compter chez vous. C'est de la musique à 7 ans, vraiment. C'est pas un truc de jazzman, parce que normalement, c'est ce qu'on fait dans les écoles de musique quand on a un très très haut niveau. D'abord, on joue à 4 temps, puis ensuite à 3, puis à 2, à 6, à 12. Et après, on dit, allez les gars, vous êtes très forts, on se met à 7 temps.
Mais non, parce que ces rythmes-là, en réalité, sont très courants dans tout l'Orient. Ça vient de Perse, auparavant, ça vient même d'Inde. Et comme ils étaient finalement dans tout l'Empire ottoman, on les appelle des rythmes à la turque. C'est dur à dire pour un Arménien, mais à un moment donné, il faut reconnaître. Et c'est pour ça que Dave Brubeck avait appelé son morceau « Le Blue Rondo à la turque ». Exactement. Mais vous êtes doué, Philippe?
Non, je ne suis pas doué, mais je me souviens, il s'était repris aussi par Nougaro.
Voilà.
Et qui cite Dave Brubeck.
Exactement.
On va arrêter de faire montre de tout ce savoir. On va parler de Jean Gabin. Ça vous parle?
Mais grave.
Imagine le gars qui dit non. Culture Média continue. Il y a Olivier Benkemoun qui arrive. Et Manoukian est déjà là avec nous.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
C'est une histoire que celle d'Anouche, c'est la grand-mère d'André Manoukian. Il en a fait un album de musique et non pas un livre et non pas un film. Vous disiez que vous avez découvert la musique arménienne, non pas avec vos parents et des vieux 33 tours, mais en écrivant la musique d'un documentaire.
Exactement.
Musique de film. Vous l'avez déjà fait ou ça vous tente ou pas du tout, c'est pas votre truc.
Alors j'ai fait, j'en ai fait un joli, c'est Jean-Philippe avec Johnny Hallyday.
Ah oui, Lucchini. J'avais oublié ça.
Ouais, je me suis retrouvé avec le Symphonique de Londres, c'était assez cool. J'ai fait 4 étoiles, enfin quelques comédies comme ça. Et puis là, ça demande un engagement total en réalité. Et l'autre jour, je regardais un documentaire sur Ennio Morricone et c'était génial parce qu'il disait à sa femme, j'ai commencé la musique de film en 62, je lui disais en 70 j'arrête. Mm-hmm. En 70, j'ai dit en 80 j'arrête. En 90 j'arrête. Quand vous faites de la musique de film, c'est génial, mais vous êtes vraiment au service du compositeur et vous avez parfois envie que votre musique existe par elle-même. Donc il y a toujours un débat. Gabriel Yared, qui est génialissime, des fois il s'engueulait avec Godard en lui disant mais quand vous utilisez du Mozart, Mozart il n'a pas vu votre film, donc j'aimerais que ma musique fonctionne toute seule.
Olivier Benkemoun, je me tourne vers vous. Vous avez vu le lien, il est tout trouvé. Mais votre indispensable ce matin. Je suis pas un génie, c'est juste que quand on n'est pas un génie, on prépare avant l'émission. C'est juste le principe. Vous célébrez Jean Gabin.
Jean Gabin a disparu il y a 46 ans cette semaine. C'était le 15 novembre 1976. Il avait 72 ans. Et le 19 novembre, on le sait moins, ses cendres ont été dispersées en mer depuis un bateau de la Marine nationale, parce qu'il a été militaire. Des légendes du cinéma, des acteurs comme ça, cette profondeur, cette présence, son regard, ses yeux bleus. Il n'y en a pas d'autres. Il y a eu Depardieu, peut-être, il y a eu Ventura. Mais,
il y a eu Depardieu, disons. Hein.
Oui, mais oui, vous avez raison. Mais le moule, je veux dire, le moule d'acteur comme ça, le moule Gabin, le moule, il n'y en a pas.
Depuis l'enfance, la chance me fuit.
Gabin, qui chantait pour le film Chacun sa chance, film de 1930, son premier rôle au cinéma, une opérette. C'était le début du parlant, il jouait un jeune dandy. Et non, il savait chanter. Non seulement il savait chanter, parler, mais il avait une gueule. Gueule d'ange, gueule d'amour. Et en plus, il jouait avec Gaby Basset, qui sera sa femme pendant 4 ans. Mais enfin, il n'y a pas que des bleuettes dans la filmographie de Gabin. Il y a eu aussi des grands moments d'amour.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Ben oui, t'as de beaux yeux, mon Dédé. Embrassez-moi.
Olivier.
Quai des Brumes 1938, Marcel Carné, Michel Morgan. Attends, on se disait des choses en se regardant droit dans les yeux, avec vous aussi, Philippe. Et on ne se chinait pas à travers des téléphones et des applis de rencontre. Nul. Qu'est-ce qu'il faut revoir de Gabin? À peu près tout. Quai des Brumes, évidemment. La Bandera, où il incarne un homme qui s'engage dans la Légion étrangère après un meurtre. Ça, ce sont des films d'avant 50. On est entre deux guerres. On sent que la botte nazie s'approche. Et en même temps, il y a des luttes sociales en France, le Front populaire. Et Gabin, il a incarner tout ça, c'est aussi pour ça que les Français l'adorent, l'aiment et voient en lui quelque chose de plus qu'un acteur.
Je vais vous dénoncer.
Allez tout leur raconter, ce que je suis, qui je suis. Ça vaudra beaucoup mieux, et le plus vite possible. Allez, que je vous dis.
Extrait de L'Imposteur. Vous avez remarqué quelque chose dans ce film de Duvivier?
Non, dites.
Bon,
il a la voix un peu plus aiguë.
Ah, c'est parce que c'est pas sa voix.
Ah,
c'est
bon,
la particularité de ce film. Film de Duvivier avec Marlène Détriche, avec qui Gabin avait une histoire d'amour. Film tourné à Hollywood et en anglais. Et la version française, bah, c'était pas lui. Donc celui que vous avez entendu, effectivement, vous avez l'oreille, c'est pas Gabin, c'était un autre acteur. Gabin, je le rappelle, s'était exilé aux États-Unis au début de la guerre, exil qu'il supportait mal. Il revient en France et s'engage dans l'armée de 43 à 45. Mais ce qui est terrible, après-guerre, quand il revient avec ses cheveux blancs, les producteurs n'en veulent plus. On n'en veut plus de Gabin, on ne le fera plus tourner. Il va devenir paysan jusqu'au film qui va le relancer.
Et voilà notre tirelire. J'ai filé notre Grisby dans des caisses à cartouches. Ouais, il y a 2 lingots par valoche. Il y a 24 kilos, alors comme ça c'est plus facile à porter.
Ben oui, c'est plus facile à porter. Oh, quel accent.
J'arrive pas à croire qu'il trouve pas de boulot. Franchement, ouais, c'est dingo.
Touchez pas au Grisby. Après ça, Gabin n'est plus la gueule d'amour, mais la gueule du polar français pendant 20 ans. Il ne va ne faire quasiment que ça, mais c'est ce qui va lui permettre de redevenir numéro 1, numéro uno du cinéma français.
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Extrait du Pacha de Georges Lautner, au revoir absolument. Ainsi que Mélodie en sous-sol avec Delon, Le clan des Siciliens, Maigret en un piège, etc. Enfin, il y a des polars. Et de temps en temps, une petite comédie.
Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Polymo. Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou.
Mais laissez-moi le 200.
Jambier,
la traversée de Paris avec Bourville et de Funès, l'un de mes préférés. Et puis je termine par un film qui fête cette année ses 60 ans, Un Saint-Jean d'hiver.
Et lesquels, qui c'est qui va les payer?
Adressez-vous à l'intendance, nous on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
Bon Dieu, Un Saint-Jean d'hiver. Je referai toutes les voix. 1962, meilleur film de bar. Ouais, jamais égalé, vraiment. Je pense. Mais vous les connaissez, les films de bar, vous les connaissez tous. Meilleure cuite du cinéma avec Gabin et Belmondo qui cabotinaient comme jamais.
la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Voilà. Gabin, on termine, on avait commencé en musique, on termine en musique. Chanson de 1974, paroles de Jean-Loup Dabadie et adaptation d'un célèbre tube anglais. D'ailleurs, il l'a repris en anglais. Now I know.
Now, ça c'est de l'accent. Merci beaucoup, Yemen Kemoun. Je sais, ça vous plaît. Vous buviez ses paroles, c'est
mais
juste
oui,
magnifique.
Mais oui, mais oui. Je pense à ce truc qu'il avait, c'était cette stature, quoi. Et ça, ça s'apprend pas. C'est les Américains appellent ça le shining. Un mec qui dégage tellement que il est tellement centré et juste on le regarde et voilà.
C'est un peu le portrait qu'André Manoukian vient de faire de lui-même. Il est avec nous dans Culture Média. L'émission continue, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
Avec un amoureux des voix de femmes, et là c'est surtout sur son piano qu'il s'est concentré, c'est André Manoukian, son nouvel album qui s'appelle Anouche, du prénom de sa grand-mère. Je l'ai dit, amoureux des voix de femmes. Il n'y a pas à proprement parler de chanteuse ni de chanson sur cet album, mais il y a des voix de femmes, notamment dans le titre L'ange à la fenêtre d'Orient. On écoute et on en parle. Ce son velouté du trio de jazz. Et alors ces voix, évidemment, on pense, ma référence, c'est les voix bulgares.
Exactement, et j'ai commencé en fait les voix parce que à Chamonix, où j'ai un festival de jazz, j'avais fait une création pour 200 choristes et c'était assez génial. Et je me suis dit, tiens, j'avais étreiné ces morceaux un petit peu. Et puis ensuite, j'ai appelé la Chica de Belleville, qui est une chanteuse géniale. Elle est franco-vénézuélienne, elle, c'est une chamane, mais elle était toute seule à faire tous ses chœurs. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'irais bien en Bulgarie pour choper le fameux mystère des voix bulgares.
C'est album sorti dans les années 80 qui est devenu culte.
Voilà, avec ce son particulier, ces timbres, et Jean-François Zigel, qui est mon copain, enfin plutôt mon concurrent, puisqu'on se défie tous les deux, on fait des joutes parfois d'improvisation, me dit, écoute, t'as pas besoin d'aller à Sofia. En Bulgarie, il y a les mêmes à Lyon. Et voilà, elles sont 4, 5, c'est un groupe qui s'appelle Balkan, et elles sont bulgares, et en plus de ça, la leaduse du groupe, qui s'appelle Milena, elle est arméno-bulgare. Et alors là où l'histoire se rejoint, c'est qu'Anouche a retrouvé son mari, donc mon grand-père, en Bulgarie, chez un Manoukian qui faisait des roses. Et les deux filles, il y a deux filles des Balkans qui sont nées dans un endroit qu'on appelle la Vallée des Roses. Donc c'était... voilà.
Est-ce que vous avez réussi, en tant que musicien, musicologue, à percer ce mystère des voix bulgares? Qu'est-ce qui fait que ça sonne de cette manière? C'est des voix de femmes normales, enfin plutôt ordinaires, plutôt classiques, et pourtant, ça ne ressemble qu'à elles-mêmes.
Alors, il y a l'harmonie d'abord, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des intervalles de tierces consonants, c'est des intervalles dissonants de secondes. Et elles le font naturellement, donc du coup, ça frotte. Et puis ensuite, il y a une manière de placer la voix un petit peu dans la gorge et dans le nez. Et il y a une maîtrise du vibrato qui est parfaite, elles font ce qu'elles veulent, parce que c'était des chants qu'on chantait dans les campagnes, il fallait s'appeler de loin. Donc voilà, ça donne cette particularité dans tout l'Orient.
Mon morceau préféré, il s'appelle Before Beethoven. Je ne suis pas très bon en anglais, je me dis que ça doit vouloir dire avant Beethoven. Quelques notes et on en parle. Et ça, c'est quoi cet instrument à la fois rond et acide ?
Alors ça, c'est un soprano, mais joué très doux par...
Un sax soprano.
Un sax soprano, exactement, joué par Hervé Gourdiquian, qui me suit depuis longtemps maintenant. Et je l'ai appelé Before Beethoven parce que chez mon père, j'ai retrouvé des vieilles partitions de Beethoven que je travaillais quand j'étais gamin. Et maintenant, en tant que jazzman, je les ouvre et je fais « Waouh, c'est super les accords qu'il fait là, le Beethoven !» Et un jazzman, ça prend une tournure, une cadence, et ensuite on le travaille dans tous les, on la travaille dans toutes les tonalités. Parce que l'idée, c'est de piger ce qu'il a fait.
Alors... le jazz arrive after Beethoven, pas before.
Alors before Beethoven, c'est parce que du coup j'ai fait un album sur une, j'ai fait ce morceau sur une cadence de Beethoven, c'est-à-dire sur des accords comme ça. Mais comme je suis un petit peu, je suis pas du niveau de Beethoven, je me suis dit bon, j'ai imaginé que le gars, il était avant le génie de Beethoven, et que voilà, c'était le petit mec qui était juste avant.
Je viens de comprendre, la péricole Offenbach, ça vous fait marrer ?
Oui.
Parce que c'est fait pour ça aussi, rire, écouter, chanter. Il y a Lord Autriche qui arrive, André Manoukian est là, je vais essayer de le faire taire pendant 3 minutes, c'est pas facile, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Si j'osais, je dirais que le vendredi, dans cette émission, avec Laurent Mariotte, on parle de bouffe, mais là on va parler d'opéra bouffe. Bonjour Lord Autriche.
Bonjour Philippe.
Van pourri improvisé. Prière de m'excuser. Vous nous parlez aujourd'hui d'un opéra, l'or, qui se joue en ce moment à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, la Péricole d'Offenbach. D'un mot, vous aimez bien Offenbach ?
Mais oui, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une tournure, il y a un humour, il y a énormément de travail.
Et voilà, et c'est exactement ce qu'on voit dans la Péricole, qui a été composée il y a plus de 150 ans, créée à Paris. L'opéra raconte l'histoire d'une chanteuse péruvienne qui doit se prostituer, se donner à un vice-roi lubrique pour ne pas mourir de faim. Alors vous voyez déjà, l'histoire est cruelle, mais comme c'est un opéra bouffe, eh bien, la musique, elle, est légère, joyeuse, et tout finit dans la bonne humeur. Alors imaginez, il y a 150 ans, quand les bourgeois sont allés écouter l'œuvre pour la première fois, ils ont dit « mais... pourquoi nous parler de pauvres qui ont faim ?» Et c'est ça aussi tout le génie d'Offenbach, c'est de s'attaquer à l'époque à des sujets dont personne ne parlait. Alors j'ai demandé au chef d'orchestre, Marc Minkowski, de me dire comment il voyait le compositeur Offenbach.
Alors Offenbach, c'est un peu comme un Chaplin, un Keaton, un grand humoriste très raffiné. C'était une façon pour le public de venir un peu s'en canailler avec des sujets actuels, un peu politiques, un peu coquins, où tout était, la société est extrêmement raillée.
Mais Offenbach, il compose la musique ou il s'occupe aussi du livret et de l'histoire ?
Là aussi, il y a l'histoire. Voilà, on est à une époque où il fait un peu les deux. Après, il y a des opéras où les livrets sont écrits, mais lui, finalement, veut mêler les deux. Et c'est un opéra aussi, la Péricole, qui parle d'abus de pouvoir, incarné justement par ce vice-roi. Et donc un sujet aussi qui fait écho aux dictateurs modernes par certains aspects. Il y a eu des scandales, il y a eu des censures. Et le parcours d'Offenbach aussi est intéressant parce que son père, il vient d'une famille allemande, il est juif allemand. Son père est le cantor de la synagogue, donc chargé de la musique dans une synagogue de Cologne, milieu très austère. Et lui est devenu le roi de la musique légère. Et qu'est-ce qu'il a fait Offenbach pendant que son père était à la synagogue ? Il allait dans les tavernes de Cologne, jouer du violoncelle et danser presque sur les tables. Alors dans cette production justement, il a fallu, et c'est ce que voulait aussi le metteur en scène, hein, diffuser, faire valoir, mettre en avant le côté haut en couleur d'Offenbach. L'orchestre des musiciens du Louvre joue sur instruments d'époque, c'est ce que dit le chef d'orchestre Marc Minkowski.
Vous avez des instruments à percussion qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus proches de ce qu'on utilise dans une fanfare dans la rue encore aujourd'hui. On a des instruments avant qui sont des flûtes totalement en bois, avec une espèce de douceur.
Voilà, on a aussi cet instrument, cet orchestre qui nous ramène 150 ans en arrière par ses sonorités. Et puis sur la forme, eh bien, j'ai vu les répétitions, vous avez l'impression de voir une comédie musicale, les chanteurs qui dansent, qui bougent, qui parlent d'une façon pas du tout poussiéreuse. Dans les dialogues aussi, sans dénaturer le texte, ils ont été en partie remaniés pour être plus actuels. Le metteur en scène Laurent Pelli en est à sa 14e mise en scène d'une œuvre d'Offenbach.
C'est un peu dépoussiérer le texte. Et puis ces deux personnages de chanteurs des rues, de Piquillot et Péricole, bah, c'est des personnages qu'on peut rencontrer dans la rue aujourd'hui. Et ça nous paraît toujours bizarre qu'ils aient un langage un peu trop sophistiqué. Donc c'est encore une fois de le rapprocher de nous.
Alors voilà, si vous hésitez, bien allez-y, parce qu'il n'y aura pas de distance. Vous n'aurez pas l'impression d'entendre de la musique classique. Il y a 74 opéras d'Offenbach. En voilà un, la Péricole, l'un des plus connus. Si vous êtes à Paris et de passage à Paris, bien les représentations ont lieu au Théâtre des Champs-Élysées en ce moment jusqu'au 27 novembre avec l'Orchestre des musiciens du Louvre, Marc Minkowski à la direction, mise en scène de Laurent Pelli. Et puis parmi les rôles titres, les chanteurs Stanislas de Barberac, Marina Viotti, Antoinette Dunfeld notamment. Représentation donc jusqu'au 27 novembre.
C'est marrant parce que habituellement on fait des textes d'époque avec les instruments de maintenant, là il a fait l'inverse.
Il
les
joue
textes
beaucoup.
Réécrits et les instruments avec les flûtes de l'époque en bois.
Ouais.
On entend bien ou pas?
Ouais.
Parce qu'on dit que les instruments modernes donnent plus d'énergie, on entend bien quand même.
Oui, 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 oui.
La flûte d'époque,
voilà.
Fait un petit son.
Mais c'est ça, mais il y a aussi une couleur d'époque, et c'est la particularité de cet orchestre aussi, les musiciens du Louvre, de jouer sur instruments d'époque.
En tout cas, c'est super la classe parce que à la même époque, en 1870, on dit qu'aux États-Unis, il y a la première comédie musicale, ça s'appelle The Black Crook. C'est un gars qui a signé une pièce très compliquée, une pièce allemande qui se passe au Moyen-Âge avec un peu le mythe de Faust. Et il est super embêté parce qu'il comprend qu'il va faire un four. C'est une pièce de théâtre. Il y a une troupe française de ballet dont le théâtre a cramé. Du coup, il va les prendre en leur disant « Je vous héberge, mais en échange, vous allez jouer dans la pièce. » L'auteur « Mais comment ? C'est pas du tout prévu. » « Ouais, bah tiens, prends 1000 dollars et tais-toi. » Et du coup, ça va être la première comédie musicale. Un truc insensé avec des filles vêtues légèrement exotiques. Et du coup, ça va être un succès de dingue. Ça va durer pendant un an. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'en réalité, Offenbach, c'était beaucoup plus classe que ça.
Mais...
et beaucoup plus chic, parce qu'on est plus dans la musique classique, on est moins dans un exotisme de pacotille. Et il y a du fond, comme vous venez de le dire.
Il y a du fond. Et sur la musique, quand on écoute Bernstein au début du XXe siècle, c'est dans la suite. Hein,
et je peux déjà vous annoncer en 2024 les conférences Lord d'Autriche, André Manoukian, qui nous raconte dans toute la France la musique classique. Les dates à trouver sur notre site internet europe1.fr. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes en impro là, André Manoukian, c'est le titre Anouche.
Ouais, c'est comme un blues en réalité, un blues un petit peu oriental qui se balade, qui erre.
Vous n'avez pas répondu à ma question, on parlait de Cologne tout à l'heure, c'est Keith Jarrett de Cologne Concert. Vous êtes, vous êtes en impro ou est-ce que vous écrivez ce qu'on est en train d'entendre? Vous avez écrit ce qu'on est en train d'entendre?
J'écris pas mais j'ai travaillé le thème, ouais, longtemps, longtemps. Et après j'écris pour les musiciens mais... en réalité, si maintenant, maintenant que vous me le dites, je me lève le matin, j'ai qu'un seul réflexe, c'est de me mettre derrière le piano, et là, ça sort, quoi. Et c'est bien parce que le matin, c'est le meilleur, puisque on est vierge de tout son. Et puis j'enregistre, et puis après, au bout de 6 mois, 8 mois, je commence à aller récupérer toutes mes archives, et je fais « Waouh, j'avais oublié ça ». Donc en réalité, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui jaillit comme ça tout seul. Oui.
Et vous réécoutez tout, et vous dites « ça c'est bien, ça
voilà,
c'est moins bien,
exactement,
etc.
ça je vais le travailler, tiens ça je vais le coller avec ça et tout, et vous êtes spectateur de ce que vous avez fait, et vous avez complètement oublié, donc du coup on est neutre, c'est bien. »
Vous le faites à jeun?
Oui, mais par contre tout nu parce que je dors tout nu. Donc voilà, je vous.
C'était pas du tout mon sujet.
Je sais, mais c'est pas grave. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est 11h du matin, ça fait une heure que je suis à poil derrière le piano. Il serait temps que je m'habille.
Avec des grandes baies vitrées?
Non.
À Chamonix. Avec les voisins
à
qui
Chamonix,
passent.
À Chamonix, j'ai que le glacier de.
Voilà.
De
je veux dire pourquoi je vous pose la question, savoir si vous êtes agent, parce que c'est une légende qui court sur Pink Floyd et les solos de David Gilmour. Il se défonçait, mais pas tout le temps, parce que sinon on peut pas travailler. Et parfois, il se défonçait, il faisait des solos, il s'enregistrait pendant une heure et demie. Où il jouait et après il réécoutait à Jean et il prenait tac 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 tel et tel et tel passage.
Ouais.
Je sais pas si c'est vrai ou si c'est la légende de Gilmour.
Alors voilà, c'est une sinon il y a une autre histoire, c'est le Rasta qui écoute sa musique qu'il enregistrait la veille mais sans weed et il fait mais c'est quoi cette musique de merde. Donc voilà, les substances c'est pas génial non.
Il y aura des concerts pour cet album Anouche parce que vous donnez 100 concerts par an mais il y a tellement de configurations différentes. Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Ben là, il y aura au mois de mars à Paris, il y aura le Trianon. Mmh. Et puis ensuite.
Ça sera le 19 mars, c'est ça?
Exactement.
Vous allez jouer à Anouche avec quel groupe? Donc le batteur, le petit saxo soprano.
Avec un doudouk. Le doudouk, c'est cet instrument arménien qui sonne comme une voix, c'est comme un hautbois. Il y aura les Balkans, il y aura un percussionniste indien qui caresse les peaux. Enfin voilà. Ce que j'aime quand je fais ces concerts-là, c'est que les gens à la fin me disent merci, vous nous avez fait voyager. Ça, c'est le plus beau compliment que je puisse avoir.
Et vous serez également le 22 novembre à la scène musicale. J'ai pas bien compris, c'est les pianos de Gainsbourg.
Alors ça, c'est un autre projet qui s'appelle
avec
les pianos
de Gainsbourg.
L'idée, c'est de reprendre Gainsbourg Piano Bar. Il a commencé sa carrière comme ça. Et c'est ses vieux titres de jazzy. Et là, j'aurai Arthur H comme invité, Awali, Nesrine, Déborah Leclerc. Enfin voilà, trois chanteuses et un super chanteur, Arthur. Et on va jouer Gainsbourg dans son plus simple appareil jazzy, dans ce bel écrin qu'est la scène musicale.
Ça vous plaît, le plus simple appareil? Ça sera le 22 novembre, le 29, la fête de la chanson française. Quelle actu il y a pour vous, c'est dingo. Co-animé avec Laurie Tillman à 21h, il y aura quoi? Qu'est-ce que vous allez fêter à part, enfin, de quelle manière allez-vous fêter la chanson française? Parce qu'il y a mille manières.
Eh bien, tout le monde se mélange. Très court, Amir est fan de Tété et ils chantent tous les deux à la faveur de l'automne et c'est sublime de les voir. C'est ça la fête de la chanson française. Des artistes qui se mélangent, qui jamment et qui font honneur au répertoire de chansons françaises qui est incroyable quand même.
Et il y aura même un hommage, à Charles Aznavour à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition.
Et surtout, on va voir Paul Naref avec son piano, le retour. Et quand on est allé l'interviewer avec Laurie, tout le monde était, voilà, parce que vous savez qu'il est très rare.
Bien sûr.
Puis, comment il va être et tout. Et il était d'une gentillesse, d'une coolerie, avec un sourire illuminé. Et j'imaginais jamais, voilà.
Et l'enregistrer l'émission ?
Elle a enregistré l'émission.
Il fait quel titre, Paul Naref ?
Il fait quel titre? Il fait... Ben voilà, j'ai oublié, super.
Bravo. Voilà.
Ben donc rendez-vous...
Voilà. C'est André Manoukian, l'invité qui fait non. Tu
bien,
t'en souviens? Non.
Bien.
Non, et c'est vous qui avez demandé l'hommage à Aznavour ou pas du tout?
Non, Aznavour, il a fait la première fête de la chanson française en 2002. Et c'est Amel Bent et Soprano qui lui rendent hommage.
Est-ce qu'il y aura le premier 45 tours, vous y achetez, le premier titre que vous y écoutez, vous souvenez lequel c'était?
J'ai peur.
Moi j'ai l'info.
Vous avez passé?
Bah évidemment. Carlos,
par le grand Manitou, il y a des Indiens partout. Voilà, bah voilà. Bon, j'ai 6 ans hein, quand
oui.
même. Hein,
vous avez 6 ans encore dans votre tête, non?
Mais je trouve ça joyeux et transgressif surtout. C'est après que j'ai appris qu'il était le fils de Françoise Dolto et je dis, ah ouais, d'accord.
Évidemment, ça dit quelque chose. Je vais dire, Françoise Dolto, l'immense psychanalyste pour enfants. Je ne sais pas si elle était psychanalyste, mais qui a changé la vision qu'ont les parents des enfants et maintenant décriée parce que c'est elle qui a fait l'enfant roi. Merci beaucoup, André Manoukian, d'avoir été avec nous. Je rappelle cet album extrêmement sensible et que je conseille, si je puis me permettre, de mon petit niveau. Il s'appelle Anouche. Merci d'avoir été avec nous en direct pendant cette heure. Nous, on se retrouve demain. Le programme, je ne l'ai pas. En attendant qu'on me donne le programme de demain, je ne me souviens plus qui vient.
On va faire le nôtre alors, peut-être.
Julie...
Ça va, Philippe?
Ouais,
vous savez que Philippe, il tape le 7 ans, mais facile, easy finger.
Oui,
ouais,
bien sûr.
Dans le nez, hein. Je fais une petite démo.
Alors, le programme du jour, Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. On va s'attaquer à ce sujet, les liens entre notre tête et notre assiette. Vous savez, on est nombreux à avoir des problèmes de poids, à s'inquiéter de ces kilos en trop, avoir des compulsions alimentaires, à avoir tenté 1000 régimes sans résultat vraiment à long terme. Ah, je vois M. Manoukian qui lève la main.
Ouais. Comme ça vous parle, aussi, voilà, vous avez tenté 1000 régimes.
Aussi, ouais. Mais le régime, c'est pas bon en fait.
Bah,
tout simplement,
ça
ne marche pas. Hein. Donc on va essayer de plutôt soigner la tête pour soigner l'assiette.
Génial, je peux rester?
Mais bien évidemment,
vous pouvez
avec
rester.
Grand plaisir.
Et demain, c'est Charles Berling qui sera avec nous pour une pièce de théâtre qui s'appelle Deux amis. À demain, bonne journée à l'écoute d'Europe 1.